une ligne de démarcation, le passage.
Vous avez Castillon, et si vous prenez la route de Castillon en direction de Bergerac, hein,
oui.
Vous faites un kilomètre à peine, et vous avez une petite rivière, ça s'appelle la Lidoire. Mm-hmm. C'était la ligne de démarcation.
Ah, d'accord.
Mais moi, c'était mieux que ça, parce que les parents chez lesquels j'étais réfugié étaient de l'autre côté, sur la rive gauche de la Dordogne. Mm-hmm. C'est-à-dire ce qu'on appelle le port de Castillon, maintenant ils appellent ça, je ne sais plus quel nom, enfin peu importe. Il y avait une petite plage qui était charmante, qui s'appelait Tricoston les Ombrages, c'est pas joli, c'est un comme nom. Bon, enfin. Et donc ça, c'était sur la rive gauche, il y avait une petite enclave sur la rive gauche, et il y avait une patrouille allemande qui faisait la garde à 500 mètres de la maison où j'étais logé. Et donc, c'est dans cette zone-là que mes exploits, n'est-ce pas, le passage de documents secrets ont commencé en juillet, août, septembre 1940.
Et de l'île, pour vous les acheminer, tous ces...
Par la poste.
Par la poste.
Il a envoyé ça par la poste.
Et la poste, les colis étaient peu contrôlés, enfin, c'était passé quoi.
Écoutez, ça marchait.
Ouais.
Jusqu'au jour où ça aurait pu ne pas marcher, hein. Mais ça marchait, donc lui était un peu inconscient ou innocent, et moi pareil. Hein. Je me rappelle le facteur de Castillon, avec un accent délicieux, me dit « Je n'ai jamais porté autant de courriers que depuis que vous êtes là. » S'il avait su le pouvoir, il aurait tremblé. Mais ça s'est passé très bien. Mm-hmm. Ça s'est passé très bien. Il n'y a jamais eu, le moindre, comment dire, je contrôle. Jamais.
Oui, parce que ça a été en plusieurs...
J'avais à peu près un envoi tous les deux ou trois jours. Quoi. C'était imprudent, hein.
Mm-hmm. Oui, il aurait pu y avoir une dénonciation, enfin, quelqu'un qui dit...
Ah, ben c'est-à-dire que...
Ou même
sans aller chercher une dénonciation, simplement le fait du hasard, hein. Un colis qui tombe, qui s'ouvre, et puis qu'est-ce que c'est que ça, c'est... Alors là, ça aurait été... Avec l'inconscience de mes 20 ans, j'avais dit à ma mère, si jamais on découvre ça, je prends mon vélo, je m'en vais. Mmh. Et puis je me retrouverai quand les choses seront réglées. Vous savez, j'avais 500 mètres à faire en vélo pour passer en zone libre, et je connaissais tous les endroits où on pouvait passer. Le seul ennui, c'est que en 1941, les patrouilles commençaient à avoir des chiens, vous savez, les bergers allemands, et là, c'était quand même ennuyeux. Alors, j'avais pris l'habitude, vous savez, des contrebandiers, parce que tout de même j'ai une ascendance basque, alors on sait faire. Et il suffisait de prendre des sardines et puis de frotter la semelle de vos souliers. Le chien, qu'est-ce qu'il sent? Il sent la sardine, il ne va pas vous poursuivre. Mm. Ils savent comme bonjour.
Oui.
Et donc, pratiquement, à part quelques moments où j'ai eu une petite inquiétude, parce que j'étais dans un ruisseau et puis il passait le pont dessus, enfin, vous voyez, jamais eu de poursuite en règle. Mm. Alors j'en reviens à la géologie quand même. Mais vous voyez les circonstances qui s'enchaînent les unes après les autres. Et on avait même réussi un coup terrible. Un jour, nous avions organisé un petit concours de traverser à la nage de la Dordogne. Et alors on avait pas mal de documents, il y avait pas mal de documents à passer. On avait mis ça dans des sacs en plastique. On a utilisé la marée montante pour les mettre à l'eau, ils sont passés. Et alors nous, on a été déportés en zone libre, forcément. Quand je dis nous, parce qu'il y avait plusieurs autres garçons qui faisaient le même concours, mais qui ne savaient pas ce que je faisais. Hein. Mm-hmm. Et donc, j'ai été déporté, je me suis retrouvé en zone libre en nageant, comme ça, et on a sorti le paquet, on a fait sortir le paquet, déporté. Voilà des petites astuces. Et alors les Allemands regardaient ça en riant, comme ils n'ont jamais pensé à ce qu'il pouvait y avoir dans ces choses. Bon. Alors j'en reviens à la géologie, j'ai donc été amené à faire cette licence d'agrégation avec le diplôme d'études supérieures dans la région de Castillon. Et à ce moment-là, les recherches pétrolières ont commencé à se développer en Aquitaine. Et un jour, un garçon qui avait travaillé en Iran et à Bagdad, dans la région de Bagdad, est venu au laboratoire et a demandé si par hasard il y avait un jeune géologue qui s'intéressait. Et alors le professeur Daguin m'a proposé. Et à ce moment-là, j'ai quitté Bordeaux et j'ai été installé d'abord à Dax, ensuite à Saint-Zé, où j'avais mon PC.
pour d'abord lever
l'anticlinal de Tercis-Audignan, qui est de 5 km au sud de Dax,
et
l'anticlinal d'Audignan. Alors là, l'anticlinal d'Audignan, c'est une très grande structure, qui fait environ 25 à 30 km est-ouest.
Mm-hmm.
C'est la structure la plus typique d'Aquitaine, parce que d'abord, elle est à la fleur Morédune. Elle a eu la poussée directe des Pyrénées, le flanc nord a effaillé et le flanc sud en porte tous. Ça, c'est l'exemple typique, la référence typique. Et donc, je suis resté à Saint-Gervais, où on a fait cette géologie de subsurface. Mais c'était en fait une façade. Parce que, vis-à-vis des Allemands, on était obligé de montrer une patte blanche, c'est-à-dire d'avoir des laissés-passer, puisqu'on traversait la zone à la frontière. Et il fallait se présenter toutes les semaines à la commandanture à Dax. Mais grâce à ça, vous aviez la possibilité de passer la zone comme vous voulez. Et c'est comme ça que Saint-Sever, ça a été une des très grandes zones de passage, et le rassemblement de toutes les données de la résistance se faisait à Aire-sur-Adour, qui était de l'autre côté de la frontière. C'était une organisation qui a marché très bien pendant des années, jusqu'au moment où la France a été occupée en entier.
Ouais. Et de jour, donc ça passait, les passages se faisaient aux yeux des Allemands
Oui, il fallait du culot. Le passage des personnes se faisait la nuit. J'ai toujours pensé, vers la fin, que les Allemands qui étaient là subodoraient quelque chose. Parce que, vous savez, dans un village, la nuit, des bruits, n'ont peut-être pas voulu... J'ai eu un soir la visite d'un officier allemand qui dirigeait toute la garnison là du coin. Soi-disant parce que j'avais une chambre avec une cheminée. Et un soir, sur le coup de 10-11 heures, je tape à ma porte, je vois ce grand gaillard, qui parlait parfaitement français d'ailleurs, qui me dit, écoutez, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, n'est-ce pas, est-ce que vous m'autorisez à venir me réchauffer les pieds? C'était difficile de lui dire, allez, bon, il est venu, alors on a parlé, il était au courant de ce que je faisais au point du métier, évidemment. C'était un type qui était géomètre, quelque chose comme ça. Alors on a parlé pendant une heure, deux heures, je me demandais, alors, je lui ai montré des cartes géologiques, je ne sais pas quoi faire. Puis à un moment donné, il m'a dit, vous ne trouvez pas que, monsieur, que... dans ce village qui est tranquille, paisible, etc. Parfois, la nuit, il y a beaucoup de bruit. Bon, non. Bon, je veux que je sois très puissant, je veux pas. Mais il me dit, je voulais vous demander un jour un renseignement, et tardivement, j'ai frappé à votre porte et vous n'étiez pas chez vous. Ah, je dis, vous savez, ça y est. Et puis il m'a fait comprendre que si on était un peu plus discret la nuit, lui, il n'envisageait pas tellement de faire du zèle, parce que s'il avait fait du zèle, les hautes autorités militaires allemandes auraient fait attention à lui et l'auraient envoyé sur le front russe. Vous voyez,
enfin, ouais.
Il préférait rester tranquille. Hein. Les Allemands n'ont jamais su exactement ce qui se passait à Saint-Gervais. Tout cela jusqu'à une certaine date, dont je ne saurais vous dire avec précision la date, les dates exactes, où il y a eu une dénonciation, par qui j'en sais rien, c'était quand même une bonne quinzaine de personnes s'occupant de ça, parce que c'était toute une organisation. Et là, il a fallu mettre une sourdine tout au moins, et en ce qui me concerne, les services d'espionnage anglais m'ont conseillé de disparaître dans la nature. Alors la meilleure façon de disparaître dans la nature, c'est d'aller dans une grande ville et de poursuivre les activités, évidemment. Mm-hmm. Et donc je me suis retrouvé à Bordeaux. Alors là, j'ai repris contact avec le professeur Dagan, qui m'a dit, mais d'où sortez-vous? Il m'a dit, voilà, la situation est telle que... Alors, il avait un petit poste de préparateur temporaire à titre précaire et provisoire. Voilà le titre exact. Et là, faux papiers. Alors là, c'était vraiment une activité de subversion, hein, ça y a pas de doute. Et je dois dire aussi, que on a pu prendre des contacts avec des Allemands qui n'étaient pas du tout pro-nazis ni quoi que ce soit. Avec, et on a pu monter un réseau avec des types qui étaient responsables, vous savez, du mur de l'Atlantique, l'organisation top. Et là, il y a eu tout un réseau qui a fonctionné, où beaucoup de personnes qui auraient dû être envoyées en Allemagne, prisonniers ou autres, etc., on a obtenu pour eux ce qu'on appellerait maintenant des emplois fictifs à l'organisation top. Ça a atteint un volume assez considérable, parce que je pense que on a dû sauver comme ça au moins, je sais pas, un millier de personnes, hein, qui étaient soi-disant travailleurs à l'organisation TOT et qui n'étaient pas. Et ça, grâce à des Allemands.
Des Allemands qui étaient en France,
qui étaient dans l'occupation.
Et qui eux-mêmes nous prenaient des risques énormes.
Ah bah, ils savaient ce qu'ils faisaient. Il y avait des Allemands du Sud et des Autrichiens essentiellement. Mais ils étaient parfaitement bons. Il y avait une petite équipe, il était dirigé par un garçon qui était absolument splendide, Karl Schröder. Et Karl Schröder, quand il y a eu la libération, je lui ai dit de rester en France parce que. Et il a dit non, il faut que je rejoigne ma famille. Et il a, avec son groupe, ils ont été tués en Alsace, dans les troupes de Leclerc, en fait.
Pour retour.
Mais ces types ont été somptueux. Ils ont sauvé, je vous dis, plusieurs centaines de gens. L'on a, et des gens qui étaient recherchés par la Gestapo, par...
Des gens de résistance
Des gens de résistance, des réfractaires du STO, des juifs aussi. Mm-hmm. Et là, cette équipe, ils ont tous disparu. Et quand je pense à eux, je me dis quand même, ils ont risqué gros. S'ils avaient été pris, ils étaient fusillés immédiatement, hein, c'est évident. Et c'était des gens qui étaient anti-nazis, qui ne pouvaient pas supporter ça. Et nous avons eu, en quelque sorte, la chance de les contacter, parce que c'était quand même un jeu un peu...
C'était pas évident d'être sûr, ça aurait pu jouer double jeu aussi.
Absolument, c'était extraordinaire. Il y avait des personnes qui avaient été prises par la Gestapo, qui avaient été envoyées par les gardes de l'hôtel du Palais à Biarritz, qui devaient partir dans les camps d'Auschwitz. Ce groupe-là est allé les chercher en disant que c'était des gens qui travaillaient pour l'organisation, qu'il les fallait en sauter. Là, on se fait la ligne. Alors ça a été des types absolument remarquables. Les gens de l'organisation TOP qui a pu faire ça, j'en ai connu quand même qu'une dizaine, mais il y en avait, je sais qu'il y en avait à Biarritz, je sais qu'il y en avait à Rochelle, Rochefort, peut-être même à Nantes. Et vous savez, c'était pas totalement nécessaire d'être au courant de tout. Hein.
Oui, oui.
Et là, ça a été une opération où ça a duré pendant plus d'un an. Hein. Arrêter mes activités de géologue pétrolier avec la SNPA à l'époque, parce que j'intéressais trop les Allemands, plus la milice française que j'avais sur le dos aussi. Mais ils ne connaissaient pas mon vrai nom.
Parce que vous travaillez sous un faux nom
Oui, j'ai eu à un moment donné jusqu'à 5 cartes d'identités différentes. Et c'est là où il y a toujours le côté humoristique, si vous voulez. Il y a des moments où je ne me rappelais plus comment je m'appelais. Bon, enfin, ça fait partie des choses qu'on fait quand on a 20 ans. Mmh. Un petit peu de côté sportif, un peu côté aventure. Puis la libération est venue, le professeur Daguin m'a demandé si je souhaitais continuer en géologie, parce qu'il avait trouvé que je ne débrouillais pas trop mal. Et je suis rentré, j'ai été assistant.
Et pendant cette période, dans le laboratoire, vos activités de résistance étaient connues
C'était connu.
C'était connu.
Il y avait deux personnes qui le connaissaient, c'était le patron, Daguin, et son garçon de laboratoire.
Et eux,
mais ils savaient que j'avais des activités autres que des activités purement de recherche, quoi.
Et vous en ont fait des commentaires, parfois
Non, ils étaient très discrets. Vous savez, on était discrets de nature, Vous savez, il y a eu des choses épouvantables. Parce que les gens parlaient. À un moment donné, Enfin, je logeais dans un immeuble exactement au 23 de la rue Poilue. J'étais au premier étage. Et au second étage, il y avait un garçon qui a fait de la géologie par la suite, qui s'appelait Paul Lévesque. Et Paul Lévesque faisait partie d'un réseau, mais qui n'était pas le mien. Il habitait exactement la chambre au-dessus de la mienne, au second étage de la maison. Et ce qu'il ne savait pas et que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un jeune qui envoyait des messages à Londres depuis sa chambre, également au deuxième étage dans cette maison. Et un matin, sur le coup de chevet à 5h30 du matin, la Gestapo est arrivée. Elle a foncé dans l'immeuble au deuxième étage et elle est allée cueillir le garçon en question, qui a été fusillé d'ailleurs, qui avait 17 ans. En même temps, la Gestapo a ramassé tous les gens du second étage, dont un type qui a toujours été plus ou moins douteux, mais on n'a jamais pu être sûr qu'il avait raconté des choses par ça. Et Paul Lévesque, embarqué. Moi, j'ai entendu le bruit au-dessus, moi. Paul Lévesque dit aux Allemands, je me prépare, parce qu'il était donc 5h du matin, je m'habille. Par la fenêtre de son cabinet de toilette, il me fait passer toute une série de documents confidentiels. Moi, je tombe des nues, je ne savais pas que c'était. Il me dit, brûle-moi tout ça. Je brûle tout ça à toute allure, je flanque ça aux égouts. Et il me dit, fous le camp, parce qu'ils vont descendre. La Gestapo est redescendue, ils ne sont pas arrêtés au premier étage. Mais moi, dans l'intervalle, j'avais sauté de ma fenêtre dans un jardin qui était attenant à un couvent de Carmélites, oh, quelque chose comme ça. Lesquels m'ont caché pendant, enfin, gardé pendant 2-3 heures, parce qu'ils avaient bloqué la rue et tout, enfin, c'était un grand brave. Et à ce moment-là, j'ai quitté mon appartement, il était 11 heures ou quelque chose comme ça, ils sont revenus, et ils ont été voir ce qui se passait au premier étage. Mais la personne qui tenait cette planche, son famille, a dit, oh, oui, le portu, je pourrais. Bon, et puis, ils sont revenus l'autre fois pour voir, puis ça s'est calmé comme ça. Alors, comme j'avais quand même quelques craintes, j'avais été logé chez un de mes parents, qui habitait près de la place de la Victoire. C'était le directeur de l'école des Beaux-Arts, François Rougano. Je vais loger chez lui, je lui dis voilà ce qui s'est passé, je n'ai pas tellement envie de revenir dans cette maison qui doit être surveillée. Alors, il m'a dit bon, rafle dans son quartier. Ah, il a fallu à ce moment-là que je quitte sa maison par les toits, enfin bon. Mais j'ai prévenu immédiatement les gens susceptibles d'être intéressés du fait que Paul Lévesque avait été crevaté. On s'est immédiatement mis en chasse. Et il était enfermé dans ce qu'on appelait le conseil de guerre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est rue Saint-Genès, vous voyez le lycée qui est...
Oui, oui, oui.
Eh bien, c'était la partie en face.
D'accord.
Alors, il était enfermé là, et là, j'ai été le chercher, avec un culot monumental, accompagné par un type, justement, d'organisation d'autres, on l'a dit. Puis, ils avaient un dossier, à son nom, et sur le dossier, il y avait une étiquette faire riche. Ça veut dire tout, vous ne savez pas. Il l'avait pris parce qu'ils avaient été chercher l'autre. Et donc, dans la foulée, ils l'ont libéré. Et je voudrais vous dire qu'on n'est pas resté à tergiverser sur le bord de la route.
Ouais.
Et comme ça, il a été sauvé, parce qu'il était en principe marqué pour partir dans un camp en Allemagne. Il a été sauvé, et dans l'intervalle, il est parti, en Espagne, et d'Espagne, il a rejoint le Maroc. Et moi, je suis resté en France pour continuer les opérations. Tout cela en faisant de la géologie. Vous voyez, la géologie, monsieur, ici, ça mène à tout.
Non, mais c'est vrai que c'était une activité qui était un assez bon alibi, finalement.
Absolument. Je me promenais partout, j'avais toujours des cailloux dans ma
poche. Pas une bonne raison.
Oui, c'était logique, si vous voulez. Donc, alors là-dessus, il est arrivé une autre aventure, je vous livre. Arrive au laboratoire, le professeur Abel. Le professeur Abel, c'est certainement le plus grand paléontologiste allemand, sa spécialité vertébrale. Et il était en correspondance avec le professeur Dagan, alors Dagan. Et il arrive, le garçon de laboratoire, Chabot arrive, il me dit, il y a 5 ou 6 officiers allemands, puis il me dit, Je ne connais pas, moi, les armes, mais il a des parements rouges, vous savez, il a dit, planquez-vous, parce qu'il se disait, ça y est, c'est pas ça du tout. Le professeur Abel, donc, arrive, il était au moins colonel, si c'est pas plus. Je vous demande la confidentialité, par les Français. Nous avons l'intention de construire une seconde ligne de fortification en France, à 50 km à l'intérieur des terres, par rapport à la ligne du mur de l'Atlantique. Alors 50 km, monsieur Vessy, en ce qui concerne Bordeaux, ça fait Castillon la bataille. Et alors il a demandé des renseignements sur la géologie. Il n'y avait pas d'appareil enregistreur. Parce que, croyez-moi, si vous aviez enregistré ce que l'on a raconté sur la géologie pour les décourager de faire une nouvelle ligne de démarcation, ça aurait valu son pesant de boueta. Parce qu'on leur a dit, oh là là, ce sont des molasses. C'était en partie vrai, si vous voulez, mais on a exagéré la difficulté en disant, oh là là, ça tient pas. Alors on a sorti des exemples des travaux du chemin de fer. Il a fallu des années pour que ça se consolide, tout ça. Enfin bon, Paris nous écoutait, etc. Alors on les a nettement découragés. Et je ne pense pas que c'est à cause de cette interview que ça a été abandonné, le projet, mais enfin, on a fait tout ce qu'il fallait pour, hein, tout garanti. Hein. Et ça, ça a été un bon souvenir de cette époque. Voilà. Et la géologie, vous savez,
oui, intervient dans tout.
Alors donc, après toutes ces aventures pendant l'occupation, et arrivé à cette conception, lorsque j'ai passé ma thèse et que j'étais nommé maître de conférence, que en géologie, la géologie en Aquitaine devait être essentiellement la géologie sur surface.
Et est-ce que dans les colloques après-guerre, vous avez retrouvé le professeur Abel, par exemple,
non,
c'était... Ou d'autres géologues allemands ou...
J'ai retrouvé une fois un officier qui portait un nom prédestiné, il s'appelait Hagen. Et un jour, à l'occasion d'un colloque à Vienne, d'ailleurs, sur le néogène, ça se passait d'ailleurs à l'ambassade de France, quand je me souviens, et le 14 juillet, c'est pour ça que ça se passe à l'ambassade de France. Alors il y avait un petit cocktail. Et tout d'un coup, je me suis trouvé devant un type, je me suis dit, bon, ça, c'est peut-être, je connais. Et en effet, vraisemblablement, on avait dû se tirer dessus. Et vous savez, quand vous dites attention, cette tête m'était restée, un peu en filigrane, si vous voulez. Mm-hmm. Et lui, pareil. On a eu un moment difficile, hein. On s'est regardé.
Et... Vous en avez parlé, vous ?
On a évoqué, si, on l'a évoqué.
Donc c'était bien.
On a évoqué, et puis on a dit, ben, c'était la guerre. Hein. Mais la géologie a été, si vous voulez, comme vous le laissez entendre, une sorte de. Vraiment de support et de. Le terme qu'il faut employer dans ce cas-là, enfin, ça permettait beaucoup de choses.
Ouais.
Et alors à Saint-Sevé, comme nous étions catalogués comme géologues pétroliers, mm-hmm. on cherchait de la benzine, enfin, alors là, c'était vraiment le vademécum, là on passe, là, c'est fort.